Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Critique ancienne et moderne de Nicée, un retour à la vérité de l'Écriture. Les contestations du Concile de Nicée et de sa profession de foi n'ont pas manqué. Il y en a eu à l'époque même du Concile, mais d'autres ont surgi à notre époque. Les unes et les autres, les anciennes comme les modernes, méritent qu'on s'y arrête. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Au IVe siècle, les Ariens n'ont pas été les seuls à contester la foi de Nicée. Beaucoup d'évêques se sont émus du mot « consubstantiel » introduit dans le symbole du Concile, et cela pour deux raisons. La première, c'est que ce mot n'est pas dans l'Écriture et qu'il semble introduit en force dans une profession de foi basée sur l'Écriture. La seconde est qu'il paraît faire bon marché de la distinction réelle de ce que, dans notre langage théologique, nous appelons les personnes divines. Examinons la première objection. Nous avons appris que les Ariens avaient recours à l'Écriture, exactement comme les défenseurs de la foi orthodoxe. Simplement, ils ne citaient pas les mêmes passages. Par exemple, ils citaient la parole de Jésus « Le Père est plus grand que moi » pour démontrer que le Verbe de Dieu est inférieur au Père. Tandis que les Nicéens, de leur côté, citaient la parole « Le Père et moi, nous sommes un » pour démontrer que le Verbe de Dieu était égal au Père en divinité. L'Écriture semblait donc se contredire elle-même. Or, par définition, il est impossible que la parole de Dieu se contredise. Mais les affirmations qu'elle nous propose sont toujours en tension les unes avec les autres. C'est ce qu'on a appelé les paradoxes de la foi chrétienne. Il y a de grands paradoxes comme 1 et 3 pour la Trinité et Dieu et homme pour le Christ et beaucoup d'autres paradoxes qu'on rencontre chemin faisant comme la parole de Jésus « Qui n'est pas avec moi est contre moi » apparemment contredite par « Qui n'est pas avec vous est pour vous » ou bien encore « Ne donnez à personne le nom de Père » apparemment contredit par la parole de saint Paul « Je fléchis les genoux devant le Père de qui toute paternité tire son nom ». On pourrait multiplier les exemples. L'enjeu devant un paradoxe est de tenir ensemble les propositions contradictoires, sans céder à la tentation d'en choisir une aux dépens de l'autre. Car la vérité est dans la compatibilité de l'une avec l'autre. C'est un défi pour la raison, toujours tenter de mettre la préposition « ou » quand il faudrait mettre la préposition « et ». Un seul Dieu et trois personnes. Jésus-Christ, Dieu et homme. Ce sont des défis pour la raison. En somme, il faut que la raison résiste à la tentation de simplifier en choisissant. Et le mot « hérésie » veut justement dire « choix », un choix qui exclut ce qui ne paraît pas convenir aux exigences simplificatrices de la raison. Revenons au consubstantiel. Il affirme que Dieu le Père et Dieu le Fils ne font qu'un, ou plus précisément, que le Fils est un seul Dieu avec le Père. Mais on peut lui reprocher de ne s'intéresser qu'à un des aspects du paradoxe, car il faudrait trouver le moyen de redire aussi que le Fils est différent du Père, et même de dire aussi que le Père est plus grand que le Fils. Mais comme ce qui était contesté à l'époque, c'était l'égalité en divinité du Fils avec le Père, on a fait pencher la balance du côté de l'égalité. Voilà pourquoi, dans les années qui suivent Nicée, on s'évertue à trouver des formules de compromis. Un bon exemple de ces formules est le mot « semblable » que l'empereur réussit à imposer en 359. Le mot « consubstantiel » vous offusque. Alors, on va réconcilier tout le monde en disant que le Fils est simplement « semblable au Père ». C'est moins grave que de le dire « dissemblable », comme le faisaient les Ariens extrémistes, mais c'était quand même très insuffisant, car on peut être semblable tout en étant inférieur et même de nature différente. C'est ce que faisait remarquer saint Athanase avec une obstination qui lui valut d'être exilé 5 fois, dont un exil à Trèves aux frontières de la Germanie, et de passer 17 ans au total hors de son siège épiscopal d'Alexandrie. Mais en 360, l'empereur Constance fait obligation de dire que le Fils est seulement semblable au Père. Et ce jour-là, dit saint Jérôme, le monde se réveille à rien. Saint Athanase en Orient et saint Hilaire en Occident réagiront vigoureusement et leur combat, relayé par celui des pères cappadociens, fera que l'arianisme sera officiellement vaincu en 381 au concile de Constantinople, convoqué par Théodose. On se souvient que dans ce concile, le débat portait essentiellement sur le Saint-Esprit. On peut remarquer aussi que même si le consubstantiel apparaît comme un mot abstrait, le peuple chrétien y a reconnu d'instinct une expression qui rejoignait sa foi et sa prière. Sans le concours du peuple et des moines, Athanase n'aurait jamais réussi à jouer son rôle de docteur de la foi et à échapper au filet de la police impériale. Retenons surtout que le consubstantiel a inauguré ce que j'ai appelé le langage théologique, un langage qui n'est pas nécessairement tiré de l'Écriture, mais qui explicite les affirmations de l'Écriture sans renoncer au paradoxe de la foi. Examinons maintenant la seconde objection au mot consubstantiel, celle qui consiste à dire qu'il amène à confondre le Fils avec le Père. Cette crainte n'était pas illusoire, car il y avait déjà eu l'erreur modaliste qui considérait que Père, Fils et Esprit n'étaient en somme que des noms pris par l'unique divinité pour devenir accessibles à nous. Dieu se serait montré sous des traits paternels dans l'Ancien Testament, puis sous les traits du Fils dans le Nouveau, puis comme Esprit dans l'Église, mais tout cela ne correspondrait à aucune réalité en Dieu. On comprend donc les réticences de certains évêques qui partageaient la foi de Nicée, mais qui craignaient que le consubstantiel insiste sur l'unité des personnes au détriment de leur distinction. C'est d'ailleurs pour cette raison que les pères du Concile de Constantinople renonceront à en faire usage à nouveau pour affirmer la divinité du Saint-Esprit, alors qu'on aurait pu dire de lui aussi qu'il est consubstantiel au Père et au Fils. Le Concile de Nicée a été contesté également à notre époque. Selon certains auteurs, la pensée qui s'y exprime aurait cessé depuis longtemps d'être signifiante pour nous, et le fait de s'y intéresser serait un pur passe-temps archéologique. Cette critique a été faite au XXe siècle, en particulier par le théologien allemand Hans Küng, avec deux grandes objections que je reprends ici. La première objection consiste à dire que les pères de Nicée, en disant que la divinité du Verbe était la garantie de notre propre divinisation, ont fait comme si cette idée de divinisation était un enjeu majeur de la foi, ce qui était peut-être vrai à l'époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Personne aujourd'hui n'a envie d'être divinisé. Je cite Hans Küng. De nos jours, un homme raisonnable veut-il devenir Dieu? Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Jadis, ce type de formule patristique déchaînait l'enthousiasme. Aujourd'hui, il se heurte à une incompréhension presque générale. Très actuel pour l'auditeur de l'époque hellénistique, le thème de l'échange entre Dieu et l'homme, ou des deux natures du Christ, n'a plus de prise dans un siècle qui ressent si fortement l'absence et l'obscurité de Dieu. Notre problème aujourd'hui, ce n'est pas tant la divinisation de l'homme que son humanisation. La deuxième objection est reprise d'un critique allemand de la fin du XIXe siècle nommé Harnack. Elle consiste à dire que les pères de Nicée, en adoptant un langage philosophique, toujours le fameux consubstantiel, ont absorbé le message évangélique dans la philosophie grecque. Préoccupés de répondre à l'angoisse devant la mort, ils ont repris à leur compte l'illusion païenne d'immortalité et défiguré le vrai message de l'évangile. Voici ce qu'écrivait Harnack. Dans la dogmatique grecque, s'est réalisée une alliance des plus dangereuses entre l'antique désir d'immortalité et la prédication chrétienne. Cette alliance, conclue sous les auspices de la philosophie grecque et de son intellectualisme, a conduit à des formules qui sont inexactes, qui mettent à la place du Christ réel un Christ imaginaire, et qui, de plus, favorisent l'illusion qu'on possède la réalité, pourvu seulement qu'on ait la bonne formule. Il est vrai bien sûr que le risque existe toujours de substituer des formules à la relation vivante au Christ vivant. Mais pour répondre à ces objections, il faut aller plus loin en se demandant où se situe vraiment le cœur des affirmations de Nicée. C'est ce que nous essaierons de faire la prochaine fois.